Soyez bienvenus, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International. Au sommaire, pourrait-on dire, une image. Celle-ci, c'était il y a quelques heures, tout près de Paris, au Bourget, à la COP 21. Et donc, vous le voyez, Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères, qui marque la réussite, nous allons en tout cas en parler, de la COP 21, c'est-à-dire de la grande rencontre mondiale sur le climat. 195 pays, pendant une quinzaine de jours, ont tenté de trouver un accord. Nous allons voir, en effet, si cet accord est historique, comme on le dit déjà. Et nous avons invité quelqu'un qui connaît particulièrement le sujet, Brice Lalonde. Merci d'être des nôtres. Vous avez été ministre de l'écologie en France, voici une vingtaine d'années, premier ministre écolo, comme on disait à l'époque, de nombreuses fonctions depuis, sous-secrétaire général des Nations Unies, ambassadeur des négociations internationales sur le climat, etc. Et vous avez au compteur, si je puis dire, 18 des 21 COP. Vous êtes un marathonien des COP. Vous allez donc nous dire ce que vous pensez de cela et les questions que nous vous poserons avec Sophie Malibaud de RFI et avec Philippe Ricard du Monde tourneront bien sûr sur cette actualité. On revient, si vous en êtes d'accord, sur ce qui s'est passé hier et sur le bilan de ces quelques jours.
Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
L'événement est historique. Dans la grande salle du Bourget, les représentants des 195 pays ont adopté le premier accord universel sur le climat. Quelques heures auparavant, Laurent Fabius, le président de la COP 21, visiblement fatigué et très ému, en présentait les grands principes.
Sans pouvoir connaître ce jour. Le projet d'accord proposé est différencié, juste, durable, dynamique, équilibré et juridiquement contraignant.
En 2010, à la COP de Cancun, les parties s'étaient engagées à garder la hausse du mercure en deçà de 2 degrés. Mais en 2015, c'est désormais
bien en deçà de 2 degrés et de s'efforcer de limiter cette augmentation à 1,5 degré.
Pour y parvenir, le texte propose d'atteindre un équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines et celles absorbées par la nature ou même par l'homme. Un volontarisme qui laisse les experts sceptiques. Il faudrait en effet supprimer presque 3/4 des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 et même les faire disparaître en 2100 pour tenir cet engagement.
Ça veut dire que si on le prend au sérieux, il faut changer de direction immédiatement et ça veut dire la fin immédiate des énergies fossiles. Et ça, c'est une révolution dont on ne mesure sans doute pas encore les conséquences.
Voilà pourquoi le texte ajoute cet autre engagement, une révision tous les 5 ans des plans nationaux de réduction des gaz à effet de serre. Concrètement, les pays devront évaluer, revoir à la hausse et communiquer leurs engagements. Sur la délicate question du financement, là aussi, l'accord de Paris est ambitieux. Les 100 milliards de dollars promis chaque année par les pays du Nord pour aider ceux du Sud à financer leur politique climatique devront être un plancher pour l'après 2020. En clair, les contributeurs ne pourront pas revenir en dessous des 100 milliards. Un nouvel objectif chiffré devra d'ailleurs être défini au plus tard en 2025.
Vous savez, je vous vois regarder écouter ce reportage. Vous, on ne l'a fait pas, hein, je le disais, 18 COP. Vous avez d'ailleurs amené le texte, le fameux texte dont tout le monde parle. On va pouvoir le montrer, je précise pour les auditeurs.
31 pages.
31 pages, je précise également pour les auditeurs de RFI. Bon alors, on peut dire, accord historique, Paris est une date qui change de toutes les autres COP où on est en train d'être trop optimiste.
Non, c'est une date très importante, bien sûr. Puisque dans l'histoire des négociations contre le changement climatique, on n'avait que le protocole de Kyoto, lequel ne s'adressait qu'aux pays développés du XXe siècle, tandis que là, c'est le successeur du protocole de Kyoto, il s'adresse à tous les pays du monde, et manifestement, tous les pays du monde sont d'accord. C'est quand même un événement.
Alors on a vu sur la Tour Eiffel, 1,5 degré, c'est l'ambition. On peut y croire, on précise, 1,5 degré de réchauffement depuis le début de l'ère industrielle. C'est possible, c'est jouable?
Alors c'est très difficile et en même temps c'est sans doute nécessaire. Et donc c'est une bonne chose que la communauté internationale le dise. alors il faudra le faire. Ça, c'est plus compliqué. Et comme le disait votre interlocuteur dans le reportage, en effet, ça veut dire la fin des combustibles fossiles. Ça veut dire qu'il faut se passer du charbon, du pétrole et du gaz naturel assez rapidement, peut-être vers 2050. Alors, c'est très difficile à faire parce que, précisément, ce sont les combustibles fossiles qui, jusqu'à présent, ont contribué à la prospérité du monde. Et évidemment, il faut une stratégie. Et cette stratégie, à mon avis, ça commence par le charbon. On se débarrasse d'abord du charbon qui est le plus polluant. Ça, évidemment, c'est pas dans l'accord. Donc, c'est ça la difficulté. C'est-à-dire que l'accord, ce sont des principes généraux. Et ensuite, c'est à chacun d'entre nous et à nos entreprises de voir comment faire.
Est-ce qu'il ne manque pas, est-ce qu'il ne manque pas quand même quelques objectifs un peu plus contraignants, notamment en termes de réduction des émissions état par état? Ça manque ça dans le texte. Est-ce qu'on peut considérer donc que ce texte est suffisamment sérieux?
Qu'il soit sérieux, oui, il est sérieux. Chaque COP, c'est de vouloir accoucher d'une souris. Et là, quand même, on a un vrai morceau, quoi, hein, qui va nous engager pendant un bout de temps. Mais il faut remplir les blancs, comme vous dites. Mmh. Et en effet, jusqu'à présent, alors. Que dit le texte? Il dit, ce qui est contraignant, c'est que chaque pays doit avoir un programme de lutte contre le changement climatique.
Il écrit, chaque pays crée ce qu'il veut, quoi. Il s'engage.
Voilà. En revanche, ce qu'il y a dans ce programme, mon Dieu, c'est l'affaire du pays. Il est dit qu'il faudrait atteindre le pic d'émissions, c'est-à-dire réduire le plus vite possible. Voilà. C'est écrit le plus vite possible. Mais bien entendu, il n'y a pas de date. Donc, ce qui est contraignant, c'est qu'il faut un programme. C'est qu'il faut le réviser tous les 5 ans. C'est qu'il faudra accepter que chacun jette un coup d'œil pour voir si c'est vrai ou pas vrai. Donc, la transparence. En revanche, la réduction elle-même, mon Dieu, ça, c'est plus compliqué.
Brice Lalonde, c'est très difficile à comprendre qu'on puisse parler d'un accord juridiquement contraignant alors qu'il n'y a aucun système qui permet de sanctionner ceux qui n'obtempéreraient pas et éventuellement même qui se retireraient de cet accord a posteriori.
Oui, c'est le système international tel qu'il existe aujourd'hui. Voilà, il y a 195 États souverains. Il y a un syndicat de ces États souverains qui s'appelle les Nations Unies et il n'y a pas d'autorité supranationale ni de tribunal.
Donc,
il y avait une proposition.
C'est pas juridiquement contraignant.
Alors, c'est juridiquement contraignant pour les pays qui acceptent cette contrainte. C'est tout, quoi. Mm-hmm. Et d'ailleurs, le texte dit qu'on peut soit ratifier, à ce moment-là, c'est comme un traité, soit accepter, soit accéder à tout ceci. Tout ça, c'est parce que vous avez quand même dans tous les pays du monde des situations qui sont très, 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 très différentes. Même sur le plan politique, par exemple, les États-Unis ne peuvent pas ratifier un traité. Ils n'en ont ratifié aucun, tout simplement à cause de la polarisation entre les républicains et les démocrates. Donc, c'est un texte de son genre, un texte nouveau, hybride. Et je pense que les juristes, ça va beaucoup les intéresser.
Mais ce texte sera quand même valable et contraignant, notamment pour les pays de l'Union européenne, même si, par exemple, les États-Unis ne voulaient pas ou n'étaient pas en situation de le ratifier. C'est pas un petit peu paradoxal, quand même?
C'est un accord, hein. Mm-hmm. Agreement, un accord. Voilà, c'est comme ça. Je vous signale qu'au protocole de Kyoto, il était juridiquement contraignant pour les États de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est le seul endroit où c'est juridiquement contraignant. Là, il y a un système un peu supranational. On se met d'accord et on applique. Et puis, si on n'applique pas, on a la Cour de justice. Donc, en effet, pour l'Union européenne, c'est contraignant. Et ça a été contraignant, même alors que les États-Unis n'étaient pas partis au protocole de Kyoto.
Alors justement, si on parle des États-Unis, et vous êtes bien placé pour le savoir, puisque vous êtes le cousin de John Kerry, le secrétaire d'État américain, le ministre des Affaires étrangères américain, pourquoi est-ce que les États-Unis bloquent? Il n'est pas convaincu, votre cousin Kerry?
Non, il ne bloque pas les États-Unis. Ça y est, les États-Unis sont partis de l'accord et ils sont convaincants.
Le Congrès est extrêmement réticent.
Ah, le Congrès républicain. Oui, d'ailleurs, c'est assez étonnant. Nous ne comprenons pas, nous, Européens, alors que nous savons que le changement climatique est une réalité, et que c'est transpartisan. Tous les partis politiques sont d'accord pour dire « Mais oui, bien sûr, il faut faire quelque chose. » Il n'y a qu'aux États-Unis que ça devient une affaire politique. Les républicains disant « C'est un truc de démocrate, un complot, c'est pas vrai, etc. » C'est invraisemblable. Voilà, nous ne comprenons pas cela. Et il y a quand même, heureusement, des républicains qui savent que c'est vrai et qui nous disent comme ça, quand on est tout seul avec eux, c'est à cause de nos extrémistes, on peut pas le dire.
Sauf que les extrémistes, il y a quand même, par exemple, un certain nombre de gens derrière Donald Trump, par exemple, qui lui s'affiche en tant qu'un des derniers climato-sceptiques de la planète.
Oui, un des derniers.
Comment vous l'expliquez? Parce qu'il rassemble quand même beaucoup derrière lui.
Vous savez, aux États-Unis, c'est un pays qui s'est développé beaucoup grâce au pétrole gratuit d'ailleurs. Le pétrole, ça ne coûte rien là-bas. Quand vous faites le plein de votre voiture, c'est pour rien. Et donc, les États-Unis ont du mal à s'imaginer que ça
puisse...
Un changement de modèle. En plus, les compagnies pétrolières, Exxon et autres, ont beaucoup financé les campagnes des climato-sceptiques et les campagnes électorales, malheureusement. Donc, aux États-Unis, il y a un système électoral qui fait que on peut dépenser autant d'argent qu'on veut. Donc les entreprises sont très présentes et certains élus, on peut le dire carrément, sont presque prisonniers, si vous voulez, des intérêts pétroliers.
Mais, alors John Kerry, vous pensez que lui-même est convaincu? Il est peu écolo comme vous, vous nous disiez tout à l'heure?
Il y a un gène familial?
Simplement, jusqu'à la dernière minute, les Américains, ils hésitaient sur le vocabulaire, il faut dire « doit » ou « devrait », ils essayaient tout de même d'affaiblir encore un peu cet accord.
Les États-Unis voulaient éviter d'avoir à passer devant le Congrès. Voilà, c'était surtout
avec,
ça. L'administration Obama voulait éviter d'être obligée de passer devant le Congrès. Et donc, il voudrait pouvoir quitter, si je puis dire, la présidence. Obama voudrait en laissant cet héritage et que les voilà. Et donc, il fait ce qu'il peut. Et mon cousin, c'est un défenseur de l'environnement, notamment des océans. Voilà, il est passionné par la défense des océans et la question du changement climatique. Nous en parlons entre nous depuis fort longtemps.
Vous avez, vous-même, je le rappelle au début de cette émission, été ministre. Quel jugement vous portez-vous sur la diplomatie française dans cette affaire? Au-delà de toute considération de préférence politique, la France a vraiment marqué des points sur la scène internationale?
Ah, ça a été chapeau bas au Quai d'Orsay, vraiment.
Alors, Quai d'Orsay, ministère des Affaires étrangères.
Le ministère des Affaires étrangères. Tous les ambassadeurs de France ont été mobilisés. Je pense que le travail de Laurent Fabius, les discours qu'il a prononcés sont tout à fait remarquables. Donc oui, la diplomatie française a excellemment fait son devoir, fait son travail, mission accomplie. L'organisation même à la COP21 a été remarquable. Il n'y a pas eu un défaut. Donc,
succès vraiment personnel pour François Hollande aussi?
Je ne sais pas si c'est François Hollande, il s'est donné du mal lui aussi. Très franchement, c'est le président, c'est Laurent Fabius, c'est lui qui a fait le job.
Qu'est-ce qui se passe dans ce genre de négociations? C'est vraiment l'affaire d'un pays qui mène les négociations. Est-ce que la France a été aidée d'une manière ou d'une autre par l'Union européenne également, par les Allemands,
par l'ONU,
s'intéresse, oui. Par l'ONU, etc. C'est vraiment l'affaire d'un pays qui mène les négociations en coulisses, etc. On peut le dire?
Non, c'est en effet, vous avez raison. Les négociateurs eux-mêmes, il faut les remercier. Ils travaillent depuis très longtemps. C'était agréable de les voir tous sourire là à l'annonce de l'accord. Non, ça fait. Mais quand même. La présidence, son job, si je puis me permettre, c'est précisément de sentir les lignes rouges, les difficultés, les positions des uns et des autres, d'essayer de trouver l'accord. Tout d'un coup, à la dernière minute, d'aller dire « Allez, on va faire une réunion entre la Russie et les États-Unis pour voir, est-ce que la Chine... » De nommer les indaba, on les a appelés, c'est-à-dire les négociateurs, les facilitateurs, les ministres qui... C'est la première fois, d'ailleurs. Ce sont les ministres qui sont au service des négociateurs et pas l'inverse. C'est assez frappant. Non, c'est le travail de la présidence est absolument essentiel. Mais bien entendu, il fallait qu'il y ait un accord. Et je crois que, pour la première fois, tout le monde voulait un accord. C'était très frappant. Au fond, cette COP, tous les pays émetteurs étaient d'accord pour réduire leurs émissions et faire quelque chose. La difficulté venait davantage des pays non émetteurs, des pays les plus pauvres qui disaient, mais moi, excusez-moi.
Laissez-nous développer, hein.
Oui, laissez-nous développer et aidez-nous parce que nous, on commence à subir les conséquences du réchauffement climatique et on a besoin d'aide pour s'adapter. Et donc, pour la première fois, l'adaptation au changement climatique n'a pas été moins importante que ce qu'on appelle la mitigation, la réduction des émissions. Le changement climatique a déjà commencé. Vous savez, on est déjà à quasiment 1 degré de plus que la moyenne. La moyenne avant, c'était 15 degrés, on est presque à 16 degrés. Et pour nos téléspectateurs, il faut qu'ils comprennent que c'est comme le corps humain. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, la température moyenne de la planète. Eh bien, c'est comme le corps humain. Quand vous êtes à 37, ça va. Quand vous êtes à 39, ça va beaucoup, beaucoup moins bien. Eh bien, c'est la même chose pour la planète. Les banquises sont en train de fondre. Enfin, les conséquences sont cataclysmiques, vraiment. Et donc, c'est très important que la communauté internationale se ressaisisse et qu'elle dise 1,5, même si c'est très difficile. Ça veut dire que toutes les entreprises, toutes les villes, tous les consommateurs sont appelés à essayer d'accorder leur comportement, leurs activités avec cette cible lointaine de 1,5 degré et pas davantage.
Brice Ladon, ce qu'on a pu constater aussi, c'est que les contributions qui ont été remises par un grand nombre d'États, plus de 180, c'était un beau score en soi, mais ces contributions, elles tendent vers un 3%, oui. Pas du tout vers le 1,5%. Alors là encore, on est dans un décalage entre le discours, l'accord et la réalité des intentions des États.
Mais vous avez tout à fait raison. Une conférence, ce n'est pas le salut du monde ou la fin du monde. Voilà, c'est une conférence diplomatique avec des représentants d'administration qui n'ont jamais travaillé dans une entreprise. En général, ils ne savent pas ce que c'est que l'économie, ils ont leur propre expérience. Qui va changer le monde et qui va faire le boulot? Les entreprises, les collectivités locales, les consommateurs. C'est eux qui vont progressivement faire les choses. Et justement, ils vont essayer de passer par derrière, si je puis dire, cet accord. Cet accord, il divise la planète en 195 morceaux, les États. Mais attendez, les entreprises, elles traversent les États, elles voient plus loin que la prochaine élection, etc. Et donc, elles ont compris maintenant. Le signal donné par la politique, c'est « allez-y les gars, travaillez ». Et bien, les entreprises ont commencé à travailler, et c'est extraordinaire maintenant, les nouvelles solutions qui apparaissent, les engagements de ces entreprises, les promesses.
Il y a, donc, un changement dans les entreprises, un changement d'attitude.
Il y a un changement très important. Évidemment, ce n'est pas tout le monde, évidemment.
Ce n'est pas le greenwashing, c'est pas du...
Mais même aux États-Unis, même aux États-Unis, parce que les États-Unis, il y a tout. Il y a tout et le contraire, si je puis dire. Vous avez des villes aux États-Unis qui s'appliquent à eux-mêmes le protocole de Kyoto, et il y a des villes qui veulent aller à zéro. Il y a une ville qui s'appelle Montpellier, avec un seul L, parce que les Américains à l'époque voulaient rendre hommage à la France, mais ils ne savaient pas comment s'écrivait Montpellier. Zéro carbone en 2025, etc. Avant tout le monde.
Los Angeles, qu'on cite également comme un exemple.
San Francisco, New York, toutes ces, même Boston, toutes ces grandes villes s'appliquent et réduisent leurs émissions. Et vous avez, moi j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, le gouverneur de Californie. Et là, il y a des gens qui sont en train de mettre des toits solaires sur tous les toits de Californie, des photovoltaïques, etc. Non, c'est parti. Ça ne va pas s'arrêter. Et le coût, là, le coût des énergies renouvelables est en train de diminuer de manière extrêmement forte.
Alors, vous dites la balle est dans le camp des entreprises, éventuellement de la société civile, mais alors pourquoi on continue de programmer des COP avec des États? On est déjà dans la projection de la COP22, où ce sera encore les États qui seront ceux qui discutent.
Mais parce que pour l'instant, les gouvernements ont choisi cette voie-là.
C'est
du multilatéralisme. Ils ont choisi ça parce qu'ils ont vu les Nations Unies, c'était la tradition. Ils ont commencé une autre manière de négocier qui sont les objectifs. On se met d'accord sur des objectifs et on essaie de réaliser des coalitions entre États, collectivités locales et même États fédérés. Par exemple, l'État du Québec était en avance sur Ottawa, par exemple, et entreprises et ONG et fondations. Donc c'est en route aussi cette seconde manière de négocier et d'agir en commun. Mais les États ont commencé ça, il faut encore qu'il y a beaucoup, beaucoup de détails, la transparence, c'est quoi? Comment on va essayer de standardiser les devoirs de les programmes? Comment est-ce qu'on peut les comparer? Quelle est la date de départ?
Les contributions telles qu'elles ont été rendues, elles rendent l'exercice de la comparaison impossible.
Oui.
Il y en a qui vont réduire leurs émissions par rapport au niveau de 1990, voilà. D'autres de 2010,
oui,
ça rend
exactement.
La comparaison.
Alors, à chaque fois, il faut traduire. C'est le secrétariat qui va traduire, et ce sont les scientifiques qui traduisent. Et c'est... Donc, c'est le GIEC précisément qui nous dit attention, vous n'êtes pas encore
experts,
à deux.
Oui. Oui.
Donc vous voulez dire qu'après cette COP, on va avoir un instrument de comparaison véritable de ce qu'on n'avait pas au moment de la COP?
Bien entendu, on va avoir un registre, c'est terrible, on va créer ce registre et on demande au secrétariat de nous faire des rapports réguliers et on va prendre date en 2018, etc. Ça n'arrête pas, si vous voulez. Alors, c'est la mécanique qui est en route, elle est lente, mon Dieu, elle est 195 pays, mais c'est en route et il y a beaucoup de travail à faire.
Est-ce qu'on peut imaginer un jour une instance de justice qui précisément interviendrait pour prendre des sanctions contre des États?
Moi, je l'espère. Et donc, il faut
un tribunal international.
Alors, on a un tribunal pénal international, mais il ne s'applique pas aux crimes contre la nature ou l'environnement. Et donc, sans doute qu'il faudra négocier pour arriver à ça un de ces jours. La grande difficulté, à mon avis, c'est que nous n'avons pas d'enceinte aux Nations Unies pour traiter des problèmes de la planète. On a donc 195 États qui sont là et on n'invite pas la planète elle-même ou les générations futures, elles ne sont pas là. Donc c'est vrai que c'est difficile d'aller au-delà des égoïsmes nationaux. C'est pour ça que cette COP est quand même assez remarquable parce que les chefs d'État sont venus avant. Or, les chefs d'État...
140, hein. Il n'y avait jamais eu autant de chefs d'État.
C'est quand même une affaire de chefs d'État. C'est l'avenir de l'humanité sur cette planète. C'est quand même une affaire de chefs d'État. Eh bien, ils sont venus. Et ça, c'est très important. Parce qu'eux, ils sont capables d'aller au-delà des égoïsmes nationaux et de dire aux négociateurs, s'il vous plaît, concluez un accord. C'est ce qui s'est passé.
Alors, Brice Lalonde, si vous voulez bien, nous allons faire une pause dans cette émission. Le temps de revenir sur l'actualité, sur les antennes de RFI et de TV5 Monde. Et on vous retrouve pour parler de ce bilan. Vous le faites avec beaucoup d'enthousiasme. C'est peut-être l'optimisme au lendemain de cet accord. On vous retrouve en tout cas avec beaucoup d'autres questions dans exactement 2 minutes 30.